Avec la paracha de Béa-Lotra, on aborde le sujet, entre autres, le sujet des chandeliers. L'allumage des lampes de la menorah dans le temple. Depuis de très nombreuses parachas, depuis une partie de Shemot, une tout Vayikra et le début de ce livre de Bamidbar, eh bien, on a parlé du sanctuaire. La réunion des matériaux, la construction, le fonctionnement de services des Kohanim. Et là, on poursuit sur cette lancée, puisqu'on va s'intéresser à l'allumage des lampes de la menorah. Hachem commande à Aaron d'allumer les lampes. Voilà donc un des thèmes majeurs de cette paracha, et le titre d'ailleurs est tout à fait expressif en ce sens. On a aussi une autre indication intéressante qui est en relation avec la menorah, c'est le nombre de livres que l'on va trouver dans le livre de Bamidbar. Vous allez me dire, le livre de Bamidbar, ça fait un. Eh bien non, ça fait trois. Selon des maîtres, selon notamment selon Rabbi dans le Talmud, la Torah ne compte pas cinq livres. On dit toujours le Chumash, mais selon Rabbi dans un des traités du Talmud, il faut parler de sept livres. Et on va avoir donc la compréhension de cela dans cette paracha, puisqu'il y a un passage qui est entouré de deux signes, la lettre Noun à l'envers. Et cette lettre Noun à l'envers fait que avant le Noun, ça fait un livre, entre le Noun ouvrant et le Noun fermant, ça fait deux livres, et du Noun fermant jusqu'à la fin du livre, ça fait trois livres. Ce qui fait qu'on aurait affaire à sept livres au total, comme d'ailleurs on le dit, le roi Salomon le dit dans Michelet, dans le livre des Proverbes, la sagesse a construit sa maison. Elle a taillé ses piliers au nombre de sept. Eh bien, les piliers de la sagesse feraient donc allusion à justement au nombre de livres que représente la Torah. Donc nous avons sept lampes, nous avons sept livres. On va commencer par parler de la lampe, puisque cette menorah nous donne des indications ce que doit être l'être humain. En tout cas, l'homme juif doit avoir une base stable, tout comme la menorah, une base stable, et il doit veiller à cette stabilité. Comment? On le sait que ce n'est pas toujours facile, et les circonstances font que c'est parfois extrêmement difficile. Mais on peut essayer au maximum de préserver cette stabilité. Il y a en écho un petit cours de morale, en quelque sorte de moussard. Il faut veiller à l'intégrité physique du corps. On ne doit pas négliger l'entretien de son corps physiquement, mais aussi le laisser apte à une activité spirituelle. Et pour cela, il y a en particulier l'alimentation qui est fondamentale. Elle doit être cachère. Parce que si elle n'est pas cachère, eh bien, l'être humain se rend, en particulier le juif, coupe son accès à des capacités spirituelles. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein. C'est les mécaniciens qui nous disent que dans une voiture, on ne peut pas faire marcher la voiture si on met des pièces, des morceaux de sucre dans le réservoir à essence. Ça ne peut pas marcher. Le sucre, c'est de l'énergie, oui, mais ça ne fait pas marcher une voiture. De la même manière, pour accéder à cette énergie spirituelle, ce potentiel qu'Hachem nous a offert, en quelque sorte, eh bien, il convient de conserver les canaux de la compréhension accessibles, ouverts. Et c'est aussi pour ça que tellement de gens ne perçoivent plus rien, ne perçoivent pas la sainteté de la terre d'Israël, par exemple. Et ça se traduit aussi au niveau politique, où certains sont complètement aveugles et ne comprennent pas un certain nombre de choses. En tout cas, base stable. La base stable, c'est l'intégrité physique et l'aptitude spirituelle. C'est aussi, au niveau sociologique, la solidité familiale. La paix du ménage, on doit la rechercher, évidemment. La bonne éducation des enfants également. Et on pourrait ajouter encore comme description de cette stabilité l'activité cultuelle. Il faut pratiquer les mitzvot et il faut prier. Et bien entendu, un chapitre indispensable, c'est celui de l'étude. Et grâce à vous, on est en train de partager un moment d'étude de ce genre qui contribue à la stabilité de chacun. En dehors de la base, la menorah a des branches latérales. Ces branches latérales, eh bien, certains commentateurs pensent que ces branches étaient courbées. C'est l'image que l'on a de la menorah classique en bronze que l'on trouve ici ou là avec des branches courbées de chaque côté. Et c'est l'opinion d'Ibn Ezra. Mais d'autres pensent que ces branches sont droites, en obliqué, l'une au-dessous de l'autre, avec la plus longue en bas et la plus courte en haut. De manière à ce que tous les sommets se situent à peu près à la même hauteur que la branche centrale. Donc, voilà encore un autre élément. Et qu'est-ce que c'est que ces branches latérales? Elles évoquent les oreilles de l'homme. Et le schéma nous demande d'être placés à l'écoute, en écoute. La menorah a une autre caractéristique. Elle est composée d'une seule pièce. Une seule pièce de métal qui a été battue depuis son pied jusqu'à ses fleurs. Alors, en haut, battu pour prendre la forme de la menorah. Ce n'était pas, on n'a pas versé de l'or fondu dans un moule, on n'a pas ajusté des pièces séparées que l'on a fait tenir ensemble, non. Un seul bloc de métal, et comme le dit le professeur Dufour, qui est un rave, qui avait construit un site extraordinaire qui s'appelle le site Modia, sur la paracha, le Talmud, sur des quantités de choses, et qui m'a d'ailleurs, je peux presque le considérer comme un maître, puisque à travers son site, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Eh bien, le professeur Dufour, le rabbi Dufour, il expliquait que la nature du chandelier battu et non pas coulé, etc., indique que l'être humain, il doit être cohérent. Bien sûr, je le cite exactement. Et ainsi était fait le chandelier, d'or battu, depuis son pied jusqu'à ses fleurs. Et ça, c'est la Torah qui le dit. Et après, le Rav Dufour explique, il est un, compliqué, mais cohérent en toutes ses parties de son être. Et de la même manière, l'homme doit rester cohérent malgré la complexité de sa nature et de ses sentiments. Alors, je cite Rav Dufour parce que c'est particulièrement intéressant de voir cet enseignement de sa part. C'est un professeur de psychologie et un psychanalyste. Donc on a quelqu'un qui est un fin connaisseur de l'être humain. Et il retrouve dans la paracha, dans la construction de la menorah, cet élément fondamental de la cohérence. Par ailleurs, la menorah on nous apprend autre chose, c'est la centralité du Shabbat par rapport aux autres jours de la semaine. Car la branche centrale, elle est plus élevée que les autres. Et donc on a une allusion claire aux 3 jours avant, 3 jours après et le Shabbat au milieu. C'est-à-dire le Shabbat vient quand on a vécu Shabbat, pendant 3 jours on est un petit peu dans le rayonnement et dans la force que nous a donné ce Shabbat. Et de là, donc 3 jours avant, on se prépare à Shabbat. 3 jours après, on est encore dans la sainteté du Shabbat précédent. Vous voyez, donc ce qui fait que on a une belle allusion. Enfin, la flamme, les flammes. Eh bien, ces flammes font penser à l'âme, parce qu'on se rappelle tous la parole de Shlomo HaMelech, qui a écrit dans Michelet, une fois de plus, dans le livre des Proverbes, Ner Hashem Nishmat Adam. La lampe de Hashem est l'âme de l'homme. Donc voilà encore une fois cette flamme qui vient nous en faire la relation entre l'âme et l'être humain. Et comme le Kohen Gadol qui faisait monter, c'est le titre même de la paracha de cette semaine, Be'ahalotra, en faisant monter les flammes, de la même manière, chacun doit s'efforcer de faire monter les flammes de son âme, en quelque sorte. Alors voilà un aspect, on est autour du chiffre 7, la menorah. Eh bien, on a un autre chiffre de 7, auquel j'ai fait allusion en commençant, c'est celui du nombre de livres de la Torah. Alors, les nonim, ce sont deux signes graphiques qui sont dans le manuscrit même de la Torah. Vous savez qu'on ne met pas tout dans le manuscrit de la Torah. Dans le Sefer Torah, il n'y a pas les voyelles, il y a des tas de signes qui manquent. Il n'y a pas les théramim non plus. Mais ces nounim, c'est-à-dire la lettre noun renversée, eh bien, ils sont là. Ces nounim séparent, donc on l'a dit, le livre de Bamidbar et cette paracha en particulier en 3 livres, mais le passage qui est entre les nounim mérite réflexion. Qu'est-il écrit? Vaihi, minsoar Aaron, bon, etc. Je traduis ces mots. Or, lorsque l'arche partait, Moshe disait, Lève-toi, Hachem, afin que tes ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face. Et lorsqu'elle faisait halte, il disait, Reviens siéger, Hachem, parmi les myriades des familles d'Israël. Donc, on a là une discussion dans le Talmud Babli sur la raison de ces signes, mais pourquoi sont-ils là? Pourquoi cette division? Alors, on a deux avis qui doivent être connus, je pense. On peut dire qu'il y a un texte, le texte qui est entre les nonymes, un texte qui n'est pas à sa place. Et la deuxième explication, c'est que ce texte-là vient séparer deux fautes, pour qu'il n'y ait pas trop accumulation de fautes. Donc, ce petit texte vient séparer. Comme ça, on a une faute séparée par quelque chose, puis encore une autre faute. Si l'on prend la première explication, c'est-à-dire que ce texte n'est pas à sa place, et où aurait-il dû être? En fait, on sait que la lettre Noun, la gématria de la lettre Noun, c'est 50. Eh bien, cette indication, cette gématria de la lettre Noun, fournit peut-être une indication, car les deux versets, les versets du paragraphe qui est entre les nounim, ces versets sont déplacés de 50 versets par rapport à l'endroit où ils auraient dû se trouver. Et dans l'endroit où ils auraient dû se trouver, c'est-à-dire dans la partie du chapitre 19 de Bamidbar, verset 15, et dans les suivants, il est question de Mishkan. Donc, il est assez logique que le déplacement des enfants d'Israël levant le camp, eh bien, et déplaçant le Mishkan, eh bien, fasse référence aussi, soit dans le sujet. La loi a été donné pendant le voyage des Hébreux dans le désert. Bon, et là, on a tout le caractère de la Torah qui est en mouvement, en voyage, l'infini de la Torah et du sens de la Torah est aussi en allusion aussi. Et ici. Et notons que les nounim, les deux versets dont on parle, contiennent 85 lettres, c'est-à-dire P, la bouche, gématria de la bouche, 85. Ceci pour dire que la Torah écrite ne peut être limitée à sa seule lecture littérale, elle doit être éclairée par toutes les lumières du Pardès et en particulier de tous les enseignements de la Torah orale. Voilà donc quelques éclaircissements sur l'explication que ce texte-là, ces versets, ne sont pas à leur place. Autre explication, et c'est le cas de Rashi qui indique cela en particulier, eh bien, pour lui, ces versets sont là pour séparer deux punitions, deux fautes, deux punitions. Quelles sont ces fautes ou quelles sont ces punitions? La première correspond à ceci. On a le verset de Bamidbar 10, 33 qui nous dit « Ils quittèrent la montagne de Hachem. » Ils quittèrent la montagne de Hachem. Rashi nous dit que c'est une faute. Et la seconde faute correspond à Bamidbar 11, chapitre, verset 1. Vaï, Aram, bon, etc. Il y eut des gémissements dans le peuple à propos de la manne. Et le Talmud décrit la seconde faute avant la première. Alors, on peut s'interroger. La première faute était donc plus difficile à expliquer, peut-être. Cette première faute, elle semble un peu étrange. Ils ont quitté la montagne de Hachem, mais nous avions l'ordre de Hachem de quitter la montagne. Il y avait les nuées de gloire qui s'étaient levées, qui avançaient. Pourquoi serait-ce une faute alors que le peuple d'Israël n'a fait qu'obéir à Hachem? Ils ont levé le camp, ils ont poursuivi leur chemin et ils venaient de séjourner au Sinaï pendant 12 mois et 10 jours. Ils avaient établi leur campement le premier Sivan, ils en sont partis le 20 Iyar de l'année suivante. Peut-on leur reprocher d'avoir quitté cette étape longue alors que cela était demandé par Hachem? Eh bien, c'est là où on comprend quelque chose, c'est que la faute des Hébreux ne consistait pas tant à partir, mais à partir avec hâte, avec absence de regret de quitter ce lieu exceptionnel où la proximité avec Hachem était grande. Et de là, peut-être peut-on en tirer une leçon. Accomplir la volonté de Hachem, c'est bien, comme ici, lever le camp. Mais il faut le faire avec l'intention requise. Et on peut établir un parallèle, me semble, avec des expériences que l'on fait, que l'on éprouve souvent. Quelqu'un qui termine sa tefila et qui va rentrer à la maison, ou bien il va participer à une séouda, on peut considérer que bon, il a fait son travail, il a fait ce qui est requis, faire de la prière, et il met fin à cela, avec une certaine joie quand même. Puisque c'est la journée qui continue. De même, un étudiant qui étudie au Beit HaMidrash, il a fait toutes ses heures, il a travaillé longtemps, mais quand il se lève, ah, il est content. Ah, bon, voilà, c'est fini, je vais passer à autre chose aujourd'hui. Eh bien, cette joie d'en avoir fini ne serait pas convenable. Il faudrait, au contraire, parvenir à ressentir un certain regret de ce qu'on laisse. C'est cela, en définitive, c'est à cela que correspond la première faute des Hébreux quittant le mont Sinaï après un temps très long. Donc, et la deuxième faute, c'était quoi? C'était, comme je l'ai dit, leur gémissement dans le peuple à propos de la manne. Eh bien, la manne aussi, on comprend que c'était un prétexte. Ils ont protesté en disant on n'a pas de viande. Et donc, alors que la manne avait toutes les saveurs possibles, sauf celle de l'oignon et de l'ail, nous disent nos maîtres. Mais à part l'oignon et l'ail, la manne avait toutes les saveurs que souhaitait celui qui la consommait. Donc on a là une faute parce que ce n'était pas objectif, c'était un prétexte. Et donc nous avons maintenant ces... Nous avons donc le sujet de la, des nounims. On a donné l'explication sur la raison de ces nounims, le texte qui n'est pas à sa place et qu'il faudrait déplacer avec le texte qui concerne le Mishkan, une 50 versets précédemment, ou bien la deuxième explication, la séparation entre deux fautes. Et on a ici sept livres. On se retrouve avec un chumash qui fait sept livres. Et regardons bien ce mot Bamidbar, qui est le nom du livre qui contient ces trois livres. Bien, littéralement, ça veut dire littéralement dans le désert 2. Parce que il n'y a pas écrit Bamidbar dans la Torah, il y a écrit Bemidbar, comme je l'ai expliqué dans une dracha précédente. Bemidbar, dans le désert 2, qu'on peut résumer en disant au désert, mais c'est au désert Sinaï ou au désert Paran. Voyez-vous, c'est une forme grammaticale particulière. Bon, donc, on a le mot Bemidbar ou Bamidbar. Eh bien, lisons-le, ce mot. Il nous explique sept livres. Il y a écrit Bam, Dabar. Bam, en ces livres, en ces trois livres, c'est du pluriel. En ces trois livres, nous avons la parole de Hachem. Donc, de plus, on peut y voir une explication très intéressante que m'a donnée Rabbi Eliaou Bakish. Eh bien, il m'a expliqué que Bam, c'est aussi, ou c'est une ridouche, hein, peut-être est-ce cela, Bet, c'est la première lettre de la Torah écrite, Bereshit, Bara, etc. Et même, c'est la dernière lettre de la Torah orale. Ainsi, on a là le dernier traité de, le tra dernier traité de, du Talmud, c'est la Mishnah, dans la Mishnah Uktzin, eh bien, on lit dans la citation, ça, ce vers, à la fin de ce traité de Mishnah, il y a la citation du Tehilim 29-11 et qui nous dit Beshalom, c'est-à-dire on a le même final. On a le même final. Donc Bam, dans les trois livres de Bamidbar, ou bien, si on le veut bien, dans toute la Torah écrite et orale, le Bet de Bereshit est le même du dernier mot des 60 traités du Talmud, eh bien, dans eux se trouve la parole de Hachem. Donc, on a vu que cette lettre Noun a été utilisée comme siman, comme signe. D'ailleurs, un certain nombre de Haramim ne l'appellent pas l'énonyme, n'appellent pas ces l'énonyme, mais les simanim. Considérons le Tehilim 145, le psaume 145. Chaque verset commence par une lettre de l'alphabet. Mais on n'a pas la lettre Lamed comme initiale de verset. Et la lettre qui suit, c'est le Samar. Donc, on nous dit Somer Hashem. Dieu relève ce qui tombe et redresse ce qui est tordu. Les prophètes enseignent que l'histoire va déboucher sur la rédemption définitive d'Israël, malgré ses fautes, avec la venue du Mashiach, bientôt et de nos jours. Merci.